Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux en tout cas de revenir à l'église de ma femme. Voilà, bien grandi. Merci encore pour le soutien que vous nous avez apporté dans le passé. Et toujours maintenant, je pense. C'est vrai que vous étiez aussi un élément important pour notre ministère. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que c'est vrai que je ne connais pas tout le monde depuis que Laetitia est partie, c'est-à-dire il y a quoi, 13 ans. Ça a beaucoup changé, je pense, l'Église. Et donc, pour me présenter simplement, je suis le gendre de Raymond et Pascal. Voilà, comme ça, c'est clair. C'est clair pour ceux qui ne me connaissent pas. Et puis, pasteur à l'Église évangélique de Vendeuvre. Depuis 2 années, mais avant, j'étais aussi pasteur en Alsace pendant 8 ans, voilà, chez les Ménos, pour des informations. Alors, donc on m'a demandé d'apporter un message ce matin, et c'est vrai que c'est toujours une casse-tête quand je dois apporter un message dans un lieu où je ne connais pas forcément les personnes. Hein. Je ne connais pas le besoin de chacun, je ne connais pas vraiment ce que vous avez vraiment besoin d'entendre, mais... Je me suis dit, ce serait quand même bien d'apporter dans ce cas-là un thème que peut-être tout le monde s'accorde à aimer. Sur la prière, par exemple. Hein, on a besoin pour grandir dans la foi, la prière. Et j'aimerais apporter un sur la prière ce matin. Il est dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et autour d'un chapitre que nous allons voir, une partie sur la prière. Alors c'est vrai que par la prière, on expérimente Dieu agir. C'est par la prière qu'on peut devenir plus mature. C'est par la prière qu'on entre en communion avec le Seigneur. Nous avons entendu déjà ce matin, pendant la présidence, que vraiment, d'après Étienne Lermonneau, qu'il était vraiment important de communiquer avec le Seigneur parce que ce grand Dieu, ce grand créateur de l'univers avec qui nous pouvons discuter librement. Et ça, c'est un privilège, c'est vrai. Alors, j'aimerais vous inviter à vous ouvrir votre Bible. Ce sera dans Psaume 3. Vous n'avez pas votre Bible, c'est pas grave. Je vais vous lire. Dans Psaume 3 de David. J'aimerais vous lire. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi ! Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Jusqu'ici notre lecture. Pourquoi j'ai choisi le psaume 3? C'est parce que c'est la première prière que nous voyons dans les psaumes. Il y a beaucoup de prières qui apparaissent dans les psaumes, c'est vrai, des prières de louange, des prières d'adoration, mais le psalmiste a choisi la première prière dans ce psaume 3, une prière de demande d'aide. Mais avant, c'est vrai qu'il y avait les deux premiers chapitres. Le premier chapitre nous montre la perspective individuelle de l'obéissance de Dieu. Vous connaissez un petit peu ce psaume qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, etc., etc., mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, etc., etc. » Là, il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de lignes de conduite qu'on doit suivre De même, chapitre 2, on voit aussi la perspective universelle où on voit il y a un monde qui est en révolte contre Dieu, contre loin, contre le Messie, contre Jésus. C'est vrai, l'homme est en rébellion contre l'Éternel, ce qui est l'état actuel de toute l'humanité. Mais dans ce chapitre 2, on voit que Dieu triomphera malgré tout. Donc là, c'est vraiment, les deux premiers chapitres concernent des recommandations, des états de fait qui existent. Et puis, la première prière que le psalmiste a choisie, c'était ce chapitre, chapitre 3, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant l'Absalom. Elle dit, « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. » Il y a un cri de désespoir. Ce grand roi, David, on l'appelait aussi l'homme selon le cœur de Dieu, subissait des épreuves interminables. Et en lisant ce verset, je me suis souvenu aussi les premiers chrétiens qui, lorsqu'ils étaient confrontés à des persécutions, ils ont prié ainsi, « Seigneur, Maranatha, Seigneur, viens tout de suite. » C'est vrai, parfois on est tellement dans la difficulté qu'on aimerait que le Seigneur vienne nous enlever, n'est-ce pas? Oui? Vous avez la foi que le Seigneur viendra un jour pour nous enlever? C'est pareil aussi, lorsque nous sommes vraiment dans la difficulté, même actuellement, dans l'état actuel, c'est pareil. Dans mon église, il y a une dame qui a une situation, qui vit une situation très difficile. Elle n'a plus de contact avec ses enfants, ses petits-enfants. Elle vit dans une situation très difficile financièrement. Par des amis, elle est harcelée, etc. etc. Elle me disait, mais pasteur, j'aimerais vraiment que le Seigneur vienne maintenant. Tellement sa situation est difficile. Je pense que les premiers chrétiens étaient comme ça. Et peut-être David aussi avait ce sentiment, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et il dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi? Oui, ce n'est pas du tout une prière de reconnaissance. Je ne sais pas si, comment vous avez appris à prier quand vous étiez petit. Moi, quand j'étais petit, on m'a dit toujours, écoute, lorsque tu dois prier, d'abord, adresse une prière d'adoration. Après, tu peux remettre tes soucis. Enfin, ça, c'est pour mon cas, hein, personnellement. Dans mon arrière-plan spirituel, mes pasteurs m'ont toujours dit, voilà, ce serait bien de commencer par des prières d'adoration. C'est vrai, c'est important de prier, d'adresser des sujets de louange, ce qui est normal. Nous sommes créés aussi pour louer le Seigneur. Mais là, on voit un homme qui crie dans le désespoir. Et c'est le premier psaume, cette première prière que nous pouvons voir dans les psaumes. Il a crié, « Au secours, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin d'aide, je suis au bord du gouffre. » Si on réfléchit bien dans la prière, la forme la plus basique, la forme la plus élémentaire de la prière, la forme la plus spontanée, la plus répandue, c'est la demande. C'est la demande. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la détresse? Oui, je pense. Peut-être que vous avez expérimenté des échecs dans la vie, ou, je ne sais pas, une perte d'emploi, maladie grave, perte d'un proche parent ou enfant. Et souvent à ce moment-là que notre prière devient beaucoup plus intense, plus sincère et plus authentique. Cette réaction est la plus normale et on la trouve aussi chez l'homme. Lorsque le malheur frappe l'homme, on pense d'abord à Dieu pour espérer davantage. David donc était dans une situation très désespérée et ce n'était pas la première fois. Là, il est désespéré parce que son fils, son propre fils, est en train de monter un coup d'État contre lui. Mais avant, déjà dans le passé, il a connu des détresses. Il était devant le géant Goliath. Il était parfois pourchassé, et souvent pourchassé par le roi Saül. Et lorsqu'il est devenu roi, il n'a pas pu réunir toutes les tribus. D'abord, les 10 tribus étaient contre lui. Il a fallu vraiment faire beaucoup d'efforts pour rassembler tout le monde. Après qu'il s'est devenu roi, il y a eu beaucoup de guerres. Il a dû combattre contre tous ces Philistins qui guettaient sur son pays. Encore d'autres péchés encore qui se sont déroulés dans sa vie. Et puis, l'événement d'aujourd'hui, c'est, on parle de vers la fin de sa vie. Il est devenu vieux et son propre fils a organisé un coup d'État. Et maintenant, il est pourchassé par son propre fils. Il s'enfuit avec les derniers fidèles de son royaume. Et on voit cela, cet événement, dans 2 Samuel 15, verset 13, que j'aimerais quand même vous lire pour le contexte. Quelqu'un vint informer David et lui dit, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Voilà un peu la situation. Le peuple s'est rallié au jeune prétendant qui a pu bien soigner son image. Il n'y avait pas de démocratie à l'époque et son fils Absalom a très bien géré sa campagne pour devenir roi. Il s'est donné une image de grand chef auprès du peuple. Par exemple, il était sur un char flambant neuf, pressé de 50 hommes qui couraient devant lui. Il a donné une image d'un homme attentif, prévoyant aux problèmes des gens. Et puis avec un réseau de ramifications dans tout le pays, il avait fait un très bon marketing pour devenir roi. Donc les gens l'admiraient. Les gens voyaient en lui, voilà, le futur roi qui pourra nous mener, un vrai leader. Une bonne campagne d'élection présidentielle qu'il a pu mener, derrière le dos de son papa. Devant cet événement, malheureux, désespéré, David doit se souvenir de cette parole de Dieu annoncé par le prophète Nathan qui disait dans 2 Samuel 12 « Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hessien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hessien. Pour en faire ta femme. » Voilà. Un petit peu, il doit se souvenir de cette parole où il a commis un adultère, il a tué le mari de cette femme. Et encore, par la suite, il a connu beaucoup de difficultés. Ses enfants se sont entretués, ou plutôt, il y a eu beaucoup de malheurs parmi ses enfants. Le demi-frère de Tamar a dû violer sa demi-sœur. Il y a eu des vengeances en tuant l'autre, donc meurtre. Il y avait aussi donc ce Absalom qui vient mettre un coup d'État dans sa famille. Il y a eu beaucoup d'horreurs. Il y avait aussi des problèmes de sexe, d'inceste. Il y avait beaucoup de sang qui ont coulé aussi. Peut-être, sûrement, selon la parole du prophète, à cause du crime commis par David. Je lis verset 2. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Le pauvre David est en fuite et un membre de Saül lance des pierres et le maudit. Les ennemis de David prétendaient avec arrogance que l'Éternel l'avait abandonné. C'est vrai, on a pu avoir cette impression comme quoi Dieu l'a abandonné. Peut-être, oui, il a pu punir David sévèrement, mais cela ne voulait pas dire qu'il l'avait abandonné pour de bon. C'est vrai que Dieu est compatissant. Amen. Miséricordieux. Amen. Il est lent à la colère. Amen. Il est riche en bonté aussi. Amen. Ce Dieu grand, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, était toujours son Dieu. Il ne l'avait jamais abandonné. Il ne l'avait jamais abandonné. Sa grâce était disponible à tout instant, à n'importe quel être humain aussi, de même aujourd'hui. Ensuite, il y a une pause. Après avoir exposé ses faits devant le Seigneur, après avoir crié son désespoir, il y a une pause. Ensuite, sa prière change. Il est dit au verset 3 et 4, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. » Après la pause, oui, après l'exposé de sa situation, on voit une certaine confession de foi. Il dit, « Tu es mon bouclier, tu es celui qui me protège, tu es ma gloire. » Il l'a déjà expérimenté dans le passé. « Tu relèves ma tête. » À chaque fois, lorsqu'il était dans la difficulté, le Seigneur a intervenu fidèlement. Et ainsi, au verset 5 et 6, il dit, « Je me couche. » Et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades du peuple qui m'assiègent de toutes parts. Pendant sa fuite, là il est en train de dormir. Vous savez, lorsque nous sommes vraiment stressés, on a du mal à dormir, n'est-ce pas? On perd le sommeil devant des détresses. Parfois, dans des moments difficiles, moi, je n'arrivais pas à dormir et du coup, voilà, le Seigneur, enfin, je me suis dit, bon, je vais prier, quoi. Hein? Je transformais ce temps de souffrance par la prière. En tout cas, lui, pendant sa prière, il a reçu la réponse, comme quoi Dieu restait toujours fidèle et qu'il était son Dieu, qui est son bouclier, qui le protège. L'Éternel seul peut lui garantir la sécurité, c'est vrai. Avoir confiance en Dieu est plus efficace qu'un somnifère pour trouver le sommeil. Même si tout le royaume est dorénavant contre lui, il n'éprouve aucune crainte parce qu'il sait que le Seigneur est de son côté. Ici, la situation n'a pas changé. Il est toujours en fuite. Son fils est en train de le pourchasser pour le tuer. La situation n'a rien changé, mais son cœur a changé. Sa confiance a augmenté vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que nous voulons vraiment expérimenter cela? Moi, j'aimerais vraiment nous inviter à la prière quotidienne aussi. C'est vrai qu'il y a des difficultés où notre prière devient beaucoup plus intense, zélée, authentique, etc. Mais le Seigneur, nous avons entendu ce matin, que pour des petites choses aussi, il aimerait que nous puissions communiquer avec le Seigneur. J'aimerais vous donner un petit exemple. Récemment, je n'avais pas trop de problèmes dans mon ministère, mais j'avais un petit problème mécanique. C'est-à-dire que j'avais quelques problèmes avec ma voiture. Et je me suis dit, ce serait bien de prier quand même pour que le Seigneur m'accorde une nouvelle voiture. Je prie. Enfin, j'essaie d'abord de voir sur Internet quelle est la voiture idéale pour moi, selon mon salaire. J'essaie de voir, et puis trouver un moyen pour le remboursement en cas d'achat. Et puis, je calcule avec mon salaire, avec le salaire de Laetitia, mais c'est pas possible, j'arrive pas à trouver une réponse. Et puis, j'ai prié tout simplement, « Seigneur, tu vois que j'ai besoin d'un véhicule pour me déplacer, parce que voilà, je fais à peu près 20 000 km par an et je ne peux pas encore durer avec cette voiture actuelle plus d'une année. Après, j'aurai trop de réparations à faire et je n'aurai plus les moyens après. Seigneur, faites que peut-être que un de mes amis puisse me donner avec beaucoup de prix abordable pour moi. Et puis, j'ai fait cette prière et puis j'ai oublié. Le lendemain, mon meilleur copain me téléphone en disant « Écoute, je vais te laisser ma voiture. » Comme ça. Hein? Et j'ai même pas hésité pour dire « Non, non, je vais réfléchir. » J'ai dit « Oui. » Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comment j'aurais su si c'était la réponse du Seigneur si j'avais pas prié? J'ai imaginé ça. Si j'avais pas prié, j'aurais pas su si ça venait de Dieu ou pas. Et j'avais vraiment fait une prière concrète et le Seigneur m'a répondu. C'est pas la voiture actuelle. Hein. Donc il va me passer sa voiture au mois d'août. Alors j'ai dû partager ça aussi dans l'assemblée parce qu'en fait c'est une Mercedes. Alors je me dis, j'ai dit aux gens de l'assemblée, écoutez, j'ai pas les moyens, je roule pas sur l'or, mais voilà ce qui s'est passé pour pouvoir rouler sur une Mercedes. Il y a aussi, bien sûr, des sujets beaucoup plus graves, où on doit, bien sûr, adresser notre prière à Dieu. J'aimerais partager, pour terminer par ce témoignage d'un... Ah, il y a un problème. Ah, ok, pardon. Okay. Oui, alors... Alors, c'est un ami qui m'a envoyé un mail. Et je vais vous lire. C'est quelqu'un qui est malade, qui a un cancer. Quant à moi, je viens de subir ma 3e chimio. Et j'aborde donc cette année 2015 avec la nausée et des maux de tête. Ce n'est pas terrible. Mais nous devons faire face aux épreuves avec courage et foi. Mon souhait est qu'au travers mes tribulations, mon épouse et mes enfants se tournent enfin vers Dieu. Il est souverain, nous pouvons lui demander son aide par la prière, mais il est libre de l'agréer ou de la refuser. Christ, sur la croix, avant d'expier, dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il traverse alors les ténèbres de la mort et ressuscite des morts pour nous montrer le chemin qui mène au royaume des cieux, endroit de lumière, de paix, de bonheur, où la souffrance et les larmes disparaissent. Job souffert dans sa chair, perdit sa famille, ses biens et fut condamné par ses amis après de longs temps d'épreuves. Il est récompensé pour sa fidélité. Dieu est fidèle, l'homme est rebelle. Lorsque l'on regarde ce monde qui s'affranchit des préceptes de Dieu, nous pouvons comprendre son courroux. Christ, par sa mort, sa souffrance, nous a rachetés au prix fort de son sang. Il vint sur terre en avocat et reviendra en juge, espérons en son proche retour glorieux, afin que la paix, la justice et l'amour règnent sur cette terre soumise depuis trop longtemps aux malins. En effet, celui-ci sévit depuis la chute d'Adam, etc. Et il disait qu'il priait vraiment dans ces moments de souffrance, de difficulté, pour que le Seigneur agisse. J'ai beaucoup aimé parce que ce témoignage, il est toujours en difficulté physique à cause de sa santé, à cause de son cancer. Mais ce qui est génial, c'est que dans ces moments de difficulté, il tourne son regard vers le Seigneur. Oui, nous venons de lire aussi que Jésus a prié dans ces moments difficiles. C'est la réaction que nous devons aussi avoir dans les moments difficiles. Bien sûr, on peut se tourner, on peut réfléchir par nous-mêmes pour pouvoir s'en sortir par nos propres moyens. Mais tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est de lever nos yeux vers le Seigneur. Même Jésus a prié. Même Jésus, qui sommes-nous pour ne pas prier? Qui sommes-nous pour ne pas prier? Il a prié pour, avant de choisir ses 12 disciples. Il savait qui était adapté, qui correspondait pour son ministère, mais il a prié quand même. Il a aussi prié humblement devant le Père et avant de porter la croix. Et les disciples savaient que Jésus était un homme de prière et ils lui demandent de leur enseigner la prière. Qui sommes-nous pour ne pas prier? C'est une question que j'aimerais nous laisser. C'est vrai que parfois c'est difficile parce que nous vivons dans un monde où tout va tellement vite. Je dis toujours que nous vivons dans un monde où la culture zapping est omniprésente. Hein? On ne peut pas rester fidèle dans le silence pour être en communion parce qu'il y a tellement de choses dans la vie réelle. Mais Dieu nous a dit, mais il ne faut pas trouver le temps, comment on dit ça? Il ne faut pas prier lorsque vous avez du temps. Il faut mettre d'abord la priorité dans la prière pour être en communion avec le Seigneur. J'aimerais terminer par ce verset 7. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta présence avec nous et surtout pour le sacrifice que tu as déjà accompli sur la croix pour que nous puissions aussi être en paix avec toi. C'est vrai que le monde est difficile à vivre. On peut rencontrer des difficultés, des épreuves, des obstacles, mais malgré tout, comme le roi David a fait, nous voulons tourner nos regards vers toi. Et c'est vrai, il est normal de crier à toi. Il est normal, Seigneur, de crier nos désespoirs. Mais nous savons aussi que tu es là, fidèle, à nos côtés, pour nous protéger, pour nous apporter ton aide. Seigneur, aide-nous vraiment à avoir plus confiance en toi, pour expérimenter ta présence dans le quotidien. Merci encore pour ta présence. C'est au beau nom de Jésus que nous te prions. Amen.
Bonjour. Avant de partager avec vous les annonces, je vais laisser la place à Jonathan. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Oui, il est là. Qui veut nous partager un petit témoignage. Alors c'est intéressant parce que c'est un témoignage qui, d'une part, nous montre que Dieu est puissant. C'est un petit clin d'œil par rapport à la louange que nous avons partagée. Et c'est un témoignage qui nous montre aussi que Dieu répond aussi aux prières. Et là, c'est un deuxième clin d'œil par rapport au sujet du message que Shango a partagé avec nous. Voilà, Jonathan, je te laisse la place.
Bonjour tout le monde. J'aurais aimé que Rachel soit là, mais elle est avec les enfants. D'accord, ok. Mais déjà, je remercie le Seigneur pour ce matin parce que parmi notre moment d'adoration, on a fixé nos regards sur Dieu, combien il est grand, combien il est capable des miracles, combien il est bon aussi envers nous. Et aussi par rapport à le message sur la prière, j'ai pensé au psaume « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où viendra mon secours ?» Mon secours viendra de l'Éternel qui a fait la terre et les cieux. Et combien nous avons un grand Dieu qui est capable à tout faire à notre égard et combien il est aussi bon envers nous. Donc, en attendant, Rachel, je vais partager, en fait, nous aimerons partager un sujet de réjouissance et de joie de notre part. Le week-end dernier, on était à Champfleury, qui est un centre de vacances qui fêtait leurs 60 ans, avec John et Isabelle Winston étaient là aussi. Et eux, ils ont vraiment mis la méditation sur 1 Thessaloniciens 5, où il dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et en fait, ça nous rappelle des fois que Dieu nous connaît et connaît nos besoins et connaît nos faiblesses. Et il sait qu'on a besoin aussi de se rappeler. On a besoin de lui rendre grâce. C'est pour cela qu'il a mis dans sa parole de nous qu'on le fasse, parce qu'il sait qu'on a besoin de le faire. Est-ce que je reviens sur le week-end de Champfleury. J'espère que je ne vais pas parler trop longtemps. Mais ce qui m'a frappé, ce qui m'a beaucoup plu, que tout le long du week-end, on n'a jamais vanté l'œuvre de personne, mais le regard était toujours sur l'œuvre de Dieu et comment il a pu se glorifier à travers toutes les 60 ans de Champfleury. Donc, Rachel, elle ne vient pas ?
Non,
elle me laisse. D'accord, ça va. Donc, ce matin, j'aimerais partager avec vous un sujet de joie pour nous, que le sujet, c'est la grossesse de Rachel. Donc, déjà, on aimerait rendre grâce à Dieu pour cela. Même sans cette grossesse, on veut déjà le rendre grâce pour son fils Jésus. Sans son fils Jésus, nous voulons tellement le rendre grâce pour qui il est. Mais il nous a donné encore plus occasion de lui rendre grâce. Et nous sommes, moi et Rachel, nous sommes obligés et contraintes de lui rendre grâce, de lui donner la gloire qui lui est due. Donc, voilà un petit peu d'histoire. On avait, donc moi et Rachel, on avait, pas moi, mais on avait, si peut-être, bref, on avait des problèmes à avoir des enfants, donc on trouvait difficile d'avoir des enfants, donc on a prié ensemble, on s'est dit, en tout cas, Dieu est fidèle, sans enfant ou avec enfant, nous voulons le servir, nous voulons l'honorer, et on sait que sa volonté soit faite. Et donc, après un peu de temps, on s'est dit, dans un acte d'obéissance, nous voulons vraiment demander aux anciens de l'Assemblée l'onction d'huile selon ce qu'il nous est demandé dans sa parole. Pas parce que c'est quelque chose de magie, non plus parce qu'on pensait qu'en faisant, nos réponses, nos attentes soient répondues, mais que vraiment, c'était dans une démarche d'obéissance parce que Dieu, il voulait qu'on le fasse, et voilà, on a fait ça, on a demandé aux anciens de l'onction d'huile, voilà, que ça soit répandu ou pas, qu'on a des enfants ou pas, c'est ce qu'on voulait faire, et donc on a fait cette démarche-là. Après cela, il y avait le gynécologue qui nous poussait fortement souvent à faire le PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Et on a beaucoup prié ensemble et on était d'accord ensemble que pour nous, notre propre choix, c'est que Dieu, c'est Dieu qui nous donne la vie sans ou avec le PMA. Donc Dieu, il est capable de faire ce qu'il veut, qu'on a des enfants ou qu'on n'a pas des enfants. C'était l'œuvre du Seigneur et nous voulons vraiment laisser ce choix entre ses mains. Donc, on a laissé tomber ce choix-là que le gynécologue nous essayait de pousser vers cette direction-là. Voilà. Après, récemment, on est retourné vers le gynécologue et elle nous a dit, écoutez, vous n'avez pas encore ovulé ce mois-ci, il faut absolument que vous allez voir les médecins pour le PMA. Pour la procréation médicalement assistée. Voilà, ça tarde, il faut le faire. Voilà, tous ces conseils, entre guillemets, humains, mais sûrement pour notre bien. Donc, on est sortis et on a prié ensemble encore et on était d'accord ensemble qu'on ne continuerait pas dans le choix qu'elle voulait qu'on prenne, que même si les médecins ne voient pas l'ovulation, Dieu est grand Il est le Dieu du miracle, il peut faire ce qu'il veut, c'est lui qui donne la vie. Et nous voulons vraiment mettre notre confiance en lui pour cela. Et par les circonstances, 15 jours après, on était à l'hôpital et on a su que Rachel, elle était enceinte de 15 jours. Donc, en fait, la date, c'était à peu près le même moment qu'on est allé voir le gynécologue qui nous a dit qu'elle n'a pas ovulé ce mois-ci. Donc, on était vraiment reconnaissant envers le Seigneur pour l'œuvre que lui, il a fait. On est aussi reconnaissant envers tous nos frères et sœurs ici et ailleurs pour toutes les prières dans lesquelles on sait que vous avez persévéré, qui nous a beaucoup touchés, qui nous a aidés d'avoir la paix, qui nous a aidés d'avoir la confiance dans notre Seigneur, qui nous a aidés aussi à être contents dans ce que Dieu nous donne, s'il nous donne les enfants ou s'il ne nous donne pas les enfants. C'était important, bien sûr, mais l'important, c'était d'accepter la volonté de Dieu et d'accepter ce que lui, il voulait pour notre vie. Donc, on a vu pas mal aujourd'hui, et je trouve ça chouette, comme on a vu combien Dieu répond aux prières, combien Dieu est grand. Et nous croyons vraiment que c'est un Dieu des miracles. Moi et Rachel, nous ne cherchons pas nous cherchons pas des signes ni des prodiges. Nous cherchons vraiment que son évangile soit annoncé. Nous cherchons qu'il soit honoré. Nous cherchons que sa gloire soit manifeste. Et donc, nous cherchons vraiment que toute la gloire soit rendue à lui. Donc, je vais finir seulement par un petit verset. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les veilleurs se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et c'est ce Dieu-là qu'on sert, c'est ce Dieu-là qu'on veut remercier, c'est ce Dieu-là envers qui nous voulons rendre grâce ce matin et nous voulons aussi vous remercier pour tout votre soutien. Donc c'était ce bonne nouvelle que nous voulons partager avec vous ce matin. Amen.
Je vais prier pour Jonathan et Rachel et pour ce bébé. Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu réponds aux prières. Merci parce que tu as permis que Rachel soit enceinte. C'est vrai, nous voulons te la remettre, te demander de la garder, de la bénir, de la protéger. Nous te remettons ce bébé aussi, que tu le bénisses déjà maintenant et que tu bénisses aussi ce couple, cette famille, afin que ton nom soit glorifié, afin que ta puissance se manifeste autour de nous aussi. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour ta réponse, pour ta bonté, pour ta fidélité. Amen. Je partage avec vous les annonces de la semaine. Demain, Femme Club, à 14h. Demain soir, conseil, à 19h30. Mardi, ce sont les cellules. Alors, pour la cellule de Gex, ce sera chez Jean-Paul et Lydie. Pour la cellule de Prefsaint, j'imagine, chez Emmanuel et Rebecca. Est-ce que quelqu'un a eu une confirmation ou une information par rapport à cela? Alors, si ce n'est pas le cas, je vous propose, donc, s'il n'y a pas d'autres informations d'ici là, donc, ce sera bien chez Emmanuel et Rebecca. Sinon, vous serez contacté par email ou par téléphone s'il y a un changement. Pour la cellule de... Voilà. Collonges et le côté sud, c'est donc chez Craig et Florence. Jeudi, rencontre de nouveau de la chorale à 20h30. Merci aussi de prier pour cette préparation pour la fête de la musique. Il y a donc la chorale qui se prépare, il y a aussi un groupe de louanges qui se prépare pouvoir chanter et puis rendre aussi témoignage dans le village par rapport à ce que, à la présence de Dieu et à ce qu'il fait aussi dans l'église et dans nos vies. Samedi, groupe de jeunes à 20h. Dimanche prochain, culte. Dimanche prochain, c'est prévu une Olympiade. C'est juste, Anne-Laure? Oui?
J'en remets une couche pour tous ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, les autres fois où j'avais annoncé ça. Donc c'est un dimanche spécial parce que déjà c'est le groupe des jeunes qui va faire le culte. Alors venez, on aime bien changer un peu les habitudes, faire des choses un peu nouvelles. Donc voilà. Et puis on n'en prend pas du tout en charge le repas de midi, donc on ne fera rien de spécial. Mais par contre vous pouvez revenir ici à 15h. On invite donc toute l'église de Prévesaint. On a également invité toute l'église de Saint-Genis. Et le pasteur de l'église de Saint-Genis m'a dit, ce dimanche-là, nous, on invite déjà pour le culte et pour un petit apéro dînatoire une autre église, l'église protestante de Ferney. Et alors on s'est dit, ben, on n'a qu'à les inviter aussi. Eux, ils n'ont rien de prévu l'après-midi, c'est juste le matin et le midi. Mais comme on invite Saint-Genis et que Ferney seront avec eux, ben, on a aussi invité l'église protestante de Ferney. Donc on sera les trois églises. Je ne sais pas du tout combien de chez eux vont venir, peut-être pas beaucoup, peut-être beaucoup, on verra. Mais en tout cas, soyez les bienvenus pour cet après-midi. Olympiade, c'est-à-dire qu'on va faire un peu des espèces de petits tournois, un peu sportifs ou moins sportifs. On fera du foot, on fera du volley, donc on fera sur le terrain ici de la pétanque. Charlie nous a gentiment accepté qu'on utilise son terrain de pétanque à côté. Donc voilà, il y aura une petite buvette s'il fait chaud comme en ce moment. Dans tous les cas, il y aura une petite buvette. Donc voilà, venez nombreux. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais il faut prévoir l'après-midi en tout cas.
Oui. Voilà, alors si des personnes, si vous voulez pique-niquer à l'église, ben, sachez que les locaux sont à disposition. Pas de souci pour cela, pour dimanche prochain. Mardi de la semaine d'après, donc le mardi 16, il y aura donc l'étude biblique des aînés. Et puis je laisse la parole à... Oui. À Joël.
Et voilà, comme je n'étais pas là la semaine dernière, je pense que Rebecca vous a fait une petite annonce. Voilà, parce que nous aurions besoin pour le camp d'été de, principalement de tissus, des cotons imprimés, unis, peu importe, pourvu qu'ils aient une longueur minimum d'1,20 m. Et puis éventuellement de la laine, donc j'avais mis une petite affiche là-bas. Ce qui me manque le plus, c'est vraiment la laine marron. Si vous avez de la laine marron, j'en trouve dans aucun magasin, en fait. Et j'en aurais besoin pour faire un atelier. Voilà, donc tout ça, c'est pour le 13 juillet. Mais si vous pouviez regarder, si vous avez quelque chose le plus rapidement possible, qu'on se rende compte de ce qui nous manque, ce serait sympa. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, merci. Cette semaine, nous vous invitons à prier pour les chrétiens qui habitent le pays du Bhoutan. Alors, où est donc situé le pays du Bhoutan? Donc, le pays du Bhoutan, voilà, c'est le pays qui est en numéro 31, donc au nord-est de l'Inde. C'est un petit pays. C'est un pays dont la religion d'État est le bouddhisme tibétain, donc un bouddhisme assez particulier, assez strict aussi. L'hindouisme indien est aussi fortement présent, environ 75% de la population et bouddhistes tibétains et 25% hindous. Pour une population de environ 730 000 habitants, il y a un petit peu plus de 12 000 chrétiens, toutes confessions confondues, ce qui fait quand même une très faible présence chrétienne dans ce pays. Les églises aussi n'ont pas d'existence officielle, c'est-à-dire elles ne sont pas reconnues. C'est-à-dire que les églises, lorsqu'elles existent, ont peu de marge de manœuvre, pas de reconnaissance, et c'est donc difficile dans ce pays. Il n'y a pas non plus, par contre, de persécution forte et ouverte, mais par contre, une très faible représentation et peu de possibilités pour les chrétiens de vivre dans ce pays leur foi, en fait. Voilà, donc on vous invite pendant cette semaine, la semaine qui vient devant nous, à prier pour nos frères et sœurs dans ce pays, dans le Bhoutan, le pays du Bhoutan, et prier aussi pour ce pays. Sinon, je vous invite à vous lever. Et je vous lis encore deux versets dans Colossiens 3, les versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Amen. Bonne semaine, bon dimanche.